j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Monsieur François Valoton. Monsieur François Valoton est professeur ordinaire d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne. Il a fait un doctorat sur l'histoire de l'édition en Suisse romande. Je mentionnerai qu'il est aussi l'auteur d'un très bel ouvrage sur la fondation de l'Ermitage. J'ai le plaisir de lui donner la parole.
On estropie sur du nom aussi.
Vous lancez déjà la première page, comme ça on arrive directement dessus.
Mettez-le déjà là-dedans, et puis ensuite je vois.
Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci aux organisateurs de ce très beau colloque de m'y avoir convié. Donc je vais assumer dans le cadre de ce colloque une démarche quelque peu iconoclaste. Iconoclaste dans la mesure où l'introduction de sources audiovisuelles pour parler d'histoire du contemporain est encore considérée parfois comme un peu anecdotique, voire comme récréatif. Comme moi, vous avez vécu des situations d'enseignement où on finissait l'année en présentant un film pour montrer que finalement on arrivait véritablement près des vacances. Et puis le deuxième élément iconoclaste, c'est que finalement ces trois jours sont consacrés à un texte qui est un texte canonique, un texte véritablement majeur pour le 19e siècle, bien au-delà. Et donc l'aborder sous l'angle de ces déclinaisons médiatiques au 20e siècle peut faire l'effet d'une démarche totalement sacrilège. J'espère que vous me le pardonnerez, et que cela ne sera pas conçu comme tel. Quelle est ma démarche ? Évidemment, à travers ces déclinaisons médiatiques, il s'agira de voir comment le message de Solferino va être relu et réinterprété au XXe siècle. Il s'agira de voir comment ce message prend une inflexion spécifique de par sa transposition dans des médias comme la radio et la télévision. Évidemment, radio et télévision impliquent une nouvelle mise en récit du texte de Solferino. On verra donc selon quelle modalité. Et comment l'étude de cas peut nourrir une analyse plus globale, c'est ce qui m'intéresse également, des relations entre le CICR d'une part, la radio et la télévision suisse-romande de l'autre. Pour ce faire, il faut peut-être trois prérequis. D'abord, délaisser une vision a priori quelque peu naïve de la source audiovisuelle qui trop souvent est considérée dans sa seule dimension documentaire. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'il n'y avait pas de caméra et de micro ni à Solferino, ni au moment du lancement par du nom du souvenir. Et donc, il ne faut pas espérer que les sources audiovisuelles vont nous apporter véritablement de nouveaux éclairages sur ces événements. Il faut, et c'est important, replacer l'étude au sein de la stratégie de communication du CICR en matière d'audiovisuel, et ceci dès la Seconde Guerre mondiale. Ce qui amène à mettre en valeur un certain nombre de fonds audiovisuels au sein des archives de la RDS, mais également au sein des archives du CICR, puisque, comme vous le savez, il existe un département audiovisuel extrêmement important au sein des archives. Ça permet de remercier d'ailleurs les archives qui m'ont aidé à constituer ce corpus. Et puis, cela implique de mettre en contexte de manière précise ce matériel en l'intégrant dans un contexte de production, dans un contexte également de programmation qui va influer sur l'impact et la réception de la mise en onde du du message de Solferino. Pour ce faire, il est absolument nécessaire de confronter les sons et les images avec des ressources documentaires complémentaires. Le Radio-TV Joie-Tout, par exemple, le Bureau des activités humanitaires, pour ce qui concerne les archives du CICR, qui doivent permettre d'éclairer les collaborations entre CICR, les studios, radio et télévision. Cette démarche, elle va m'amener à considérer les déclinaisons de Solferino dans un sens large, en m'intéressant à des types d'émissions a priori très différents. C'est à mon sens l'un des intérêts de ce regard par l'audiovisuel que de montrer que Solferino sort de son cadre de témoignages et ou de récits programmatiques, mais prend une nouvelle dimension, et c'est cette dimension que j'aimerais interroger. Alors, deux ou trois éléments extrêmement rapides sur la politique d'information du CICR en matière audiovisuelle, car c'est un cadre absolument essentiel à avoir en tête lorsqu'on aborde ce type de thématique. Je dégagerai trois périodes. La période 39-50, qui est celle, pour reprendre le titre d'un mémoire de Laurent Hugnaelli, que j'ai intitulé « Croix-Rouge et guerre des ondes », qui est évidemment caractérisée par l'investissement du média radiophonique, mais il ne faut pas oublier également le vecteur cinématographique, puisque au cours de cette période, le CICR produit 4 films, entre plus exactement 42 et 45. Pour ce qui concerne la radio, il faut rappeler que c'est la SSR, via la personnalité de Rodolphe von Redding, un ancien délégué qui invite le CICR, et en l'occurrence Karl Burkhardt, à une meilleure collaboration, Redding proposant d'intensifier la diffusion des programmes relatifs à la Croix-Rouge, tant sur les émetteurs nationaux que sur les ondes courtes. Le comité, via son président, Max Huber, va se montrer très prudent, voire réticent, on connaît sa formule qui est reprise de manière assez régulière, le CICR ne communique pas, il soigne des blessés. Avant 1942, la présence du CICR sur les ondes est fort modeste, mais pour ce qui nous concerne, on mentionnera quand même en 1941 une émission intitulée « Autour de Solferino, évocation radiophonique » de Madame André Arosa. L'émission précède, et je trouve assez intéressant, le lancement d'une collecte qui se fait via le journal Le Radio. Donc on voit là une première forme de collaboration entre CICR et Radio. Mais c'est surtout dès 1942 que des émissions vont s'intensifier avec l'institutionnalisation d'une émission, le courrier international de la Croix-Rouge, qui va être lancé le 4 mai 1942 et qui va poursuivre sa diffusion pendant toute la guerre, ces programmes étant également relayés dans le monde entier via l'émetteur de Schwarzenbourg. Puis en 1945, c'est la création au sein du département de l'information de Radio Caritas, rebaptisé rapidement Radio Inter Croix-Rouge, qui va, durant 2 ans, diffuser des listes de prisonniers, des listes de civils dispersés, des listes d'enfants séparés de leurs parents, ainsi que des avis de recherche. Donc la radio joue son rôle non seulement d'information, mais également de communication, et cette dernière dimension va être à l'origine de l'obtention en 1949 d'une longueur d'onde spécifiquement attribuée au CICR, ce qui place l'institution dans une situation tout à fait exceptionnelle. Parmi les autres organisations humanitaires, cette longueur d'onde étant notamment utilisée lors des événements de Hongrie en 1956. 1950 marque une nouvelle période avec la création du Bureau de production radiophonique, bureau qui a pour tâche de produire et d'enregistrer des émissions radiophoniques pour le compte du CICR. 2 organes sont constitués, le Bureau des affaires humanitaires, qui est dirigé par Robert Ferrazino, qui est chargé de la production, et un bureau de radiodiffusion-télévision, qui est chargé d'établir les liaisons entre CICR et les sociétés nationales. C'est notamment ce bureau, le bureau de radiodiffusion-télévision, qui aura la charge de gérer la production des émissions radiophoniques internationales du 8 mai, qui repose, durant ses premières années, sur un multiplex qui réunit différents studios nationaux et une émission commune. 3 choses sont à souligner encore pour cette période. Le rôle très important de Georges Kuhn, qui joue un rôle très important dans la mise sur pied de cette politique volontariste en matière de radio et bientôt de télévision. Alors Georges Kuhn, peut-être comme pour moi, c'était un nom qui ne vous disait pas grand-chose, mais tout le monde le connaît plutôt sous son nom d'artiste, si je puis dire, sous le nom donc, de Georges Hardy. En a fait, dans les années suivantes, une vedette du petit écran. Donc, sous sa direction, le volume d'émissions s'agisse d'émissions radio ou TV, va prendre très rapidement une ampleur assez spectaculaire en dépit d'un soutien financier extrêmement faible de sa hiérarchie. Parallèlement, l'activité cinématographique prend un nouvel essor, je le rappelle juste ici parce que je ne pourrais pas en parler par la suite, et il faut signaler le rôle très important des commémorations de 1959 à 1963 dans cette dynamisation de la politique audiovisuelle du CICR. Je parle moins de la période postérieure puisque après 65, les archives ne sont pas encore disponibles, mais cette nouvelle période est marquée par l'institution d'un studio au siège même du CICR et le remplacement de Georges Cuc. Alors, passons maintenant aux émissions elles-mêmes, et je dirais que je vais m'intéresser à trois d'entre elles. D'une part, le jeu radiophonique, le reportage radiophonique et les fictions. Alors, le premier modèle, c'est le jeu radiophonique, qui trouve sa première traduction dans le développement d'émissions de radio scolaire, qui se présentent en fait comme des transcriptions, des adaptations, on dirait radiophonées, d'épisodes historiques, de figures biographiques, d'évocations géographiques, etc. La radio scolaire a un genre très important, précoce, qui se développe dès le début des années 30, dans les différents studios de ce qui va constituer la SSR. Une émission très particulière, puisque pensée comme une méthode d'enseignement moderne, donc l'émission est pensée pour être écoutée en classe. Ici, vous avez une émission, on le voit, qui sera diffusée mercredi 3 novembre à 10h10 sur les ondes de Radio Genève, à une époque où la programmation matinale n'y a pas de programmation matinale. Donc, cette programmation est là véritablement pour une écoute en classe et est complétée par la publication de supports de cours parallèles. C'est des petits feuillets qui s'appellent la radio à l'école, destinés aux enseignants et leur donnant des informations complémentaires et également des informations didactiques pour comment présenter cette émission radio de la manière la plus interactive et la plus dynamique par rapport à un auditoire scolaire. C'est un format d'émission qui fait l'objet d'un dispositif d'élaboration et de diffusion très particulier. Des commissions locales réunissent des hommes de radio, mais également les responsables de l'instruction publique pour définir les thèmes et pour retravailler les textes dans une collaboration extrêmement étroite entre les professionnels de la radio, un auteur et des experts scientifiques. Enfin, la radio scolaire a vocation de représenter un petit laboratoire radiophonique parce qu'on va mobiliser finalement toutes les compétences, notamment du radiothéâtre, pour essayer de mettre en onde de la manière la plus dynamique possible ces émissions. Plusieurs émissions vont être consacrées à Dunan, une déjà en 1936, une en 48 également, et surtout, l'émission que j'aimerais vous présenter, Solferino, une bataille pas comme les autres, qui date de 1959. Alors si... Est-ce qu'il n'y a pas de sortie audio, donc on va un petit peu bricoler, et puis on va surtout retenir son souffle. Alors...
La tâche est rude, la Castiglione. Des blessés arrivent de toutes parts. Les églises, le cloître Saint-Luigi, la caserne de gendarmerie sont transformées en hôpitaux.
Je vous ai mis évidemment le texte du souvenir pour voir les
couches des blessés sur la paille,
extrêmement étroit,
radiophonique, pour préserver les malheureux du soleil. Il y a de l'eau et des livres, mais trop peu de monde pour les distribuer, et les blessés meurent de soif et de faim. Il y a de la charpie en abondance, mais on manque de main pour l'appliquer. Des cris, des appels, des jurons retentissant à toutes les langues sous les voûtes des sanctuaires. Malgré les fatigues qu'ils ont endurées, malgré les nuits qu'ils ont passées sans sommeil, le repos s'est éloigné des malheureux qui, dans leur détresse, implorent le secours d'un médecin ou se roulent de désespoir dans des convulsions qui se terminent par le tétanos et la mort.
Quelques soldats, s'imaginant que l'eau froide que l'on verse sur leurs plaies déjà purulentes produit des vers, refusent de dissimuler leur bandage.
D'autres, après avoir eu le privilège d'être coincés dans les ambulances volantes, et qui ne le sont plus depuis leur séjour forcé à Castiglione, souffrent le martyr, car les linges excessivement serrés en vue des secousses de la route n'ont été ni renouvelés ni desserrés. Les mouches s'attachent aux plaies. Chez certains, la capote, la chemise,
volonté. Donc, ce qui est intéressant dans ce document, bon, d'une part, c'est cet effet de mise en scène qui va mêler le point de vue d'un récitant, Dunant, qui lui-même donc, intervient dans ce jeu radiophonique, des voix de femmes, mais aussi des voix de blessés. C'est la fin de l'extrait que je voulais vous présenter, donc avec des soldats râlant et reprenant le « ne me laissez pas mourir » qui est présent dans le texte de Dunant. Donc une reconstitution qui se veut assez réaliste, donnant à entendre, si je puis dire, la bataille, ou du moins ses suites, et assez fidèle au texte. Sur le plan du récit, on a une multiplication des voix et des points de vue. Dunant n'est pas le seul à s'exprimer. Sa parole, mais aussi ses sentiments, sont relayés par d'autres. Il y a par exemple une scène d'ouverture qui met en scène Napoléon III, qui médite sur les horreurs de la guerre. Mais aussi, on voit que ces initiatives suscitent la défiance, voire l'hostilité, ce qui permet de mettre en exergue les obstacles rencontrés par Dunant, mais partant le caractère également révolutionnaire de son projet. Autre élément introduit, une potentialité introduite par l'adaptation radiophonique, une nouvelle unité temporelle, puisque le récit ne s'arrête pas au récit de la bataille, mais se clôt par une dernière scène à Haydn. De fait, de par également les nombreux apports informatifs du récitant, il est possible d'introduire des informations sur l'histoire postérieure du CICR, ce qui permet d'inscrire Solferino dans une forme de récit téléologique qui constituera la trame de nombreuses productions qui jalonneront notamment les commémorations de 63 notamment. Et puis, troisième élément à souligner, l'auteur de cette pièce n'est autre que George Hoffmann, un délégué du CICR, au bénéfice d'une longue carrière dès 1943. Il est doctoresse lettres, il a été l'élève de Karl Burckhardt à Zurich, assistant puis privat de sang en 1935 en histoire moderne, et il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il écrit déjà sous le pseudonyme de Pierre Courtil une émission de radio scolaire en 1948 qui est consacrée à Dunant. La formule du jeu radiophonique va connaître un prolongement dans un autre contexte programmatique, à savoir les émissions du 8 mai. En effet, en 59, donc émissions du 8 mai qui sont créées au début des années 1950, en 59, le morceau de résistance de ces retransmissions est un jeu radiophonique de Gerardo Guerrieri, offert par la radio-télévision italienne. C'est la première fois que cette émission est prise en charge par une autre radio-télévision suisse. Mais la production reste assurée par Radio Genève et la mise en onde par William Jacques. La pièce est intitulée « Lumière dans la nuit ». Et puis, en 1962, on a une autre pièce, « Un souvenir de Solferino », présentée par Radio Monte Carlo, hein, qui fait l'objet de cette vaste opération internationale. Je ne vais pas commenter les émissions, nous n'avons d'ailleurs, là, je n'ai pas retrouvé les sons de ces émissions, uniquement le texte. Mais disons qu'il s'agit dans les deux cas d'adaptation très littérale du souvenir, qui par rapport au texte de Hoffmann se focalise très étroitement sur les événements de 1859, dans une tonalité qui est très pacifiste. Il faut mettre ça en relation avec le contexte historique de l'époque. Au-delà des textes, ce qui m'intéresse, ce sont les bénéfices mutuels que retire de cette opération aussi bien la SSR, Radio Genève que le CICR. La SSR est véritablement au cœur du dispositif, qui permet de toucher une très grande partie de la planète. En effet, en 1959, le programme va être diffusé en direct par 18 chaînes nationales et en différé par 18 pays des 5 continents. L'adaptation allemande, parce qu'en fait, le dispositif de l'émission fait que vous avez un multiplex au départ, permet aux différents studios de se saluer et de communiquer directement, et puis ensuite, on passe à une émission par faisceau linguistique. L'adaptation allemande est le fait du studio de Berne. La version anglaise ainsi qu'une version espagnole est préparée par le service des ondes courtes, alors qu'une version arabe est élaborée par le collaborateur de langue arabe du bureau de radiodiffusion du CICR à Radio Genève. Donc pour le CICR, outre l'universalité du message, il peut également affirmer son magistère en matière de communication internationale, un magistère qui ne va d'ailleurs pas sans grincement de dents, puisque on peut lire dans les archives de continuelles tensions avec le service d'information de la Ligue nationale des sociétés de Croix-Rouge qui menace de réduire son soutien financier, et on s'aperçoit que plusieurs sociétés nationales notamment celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ne participent pas et ne veulent pas participer aux journées du 8 mai. Le deuxième modèle d'émission, c'est le reportage, et c'est le reportage à l'occasion des commémorations de 1959. Alors, il y a surtout cette émission de Radio Lausanne du 28 juin 1959, une émission de 30 minutes, qui est intitulée Solferino il y a 100 ans, un reportage qui est réalisé par Paul Daniel, programmé de manière assez singulière entre 19h25 et 19h45, de manière isolée, sans être attaché à une émission d'information. Bon, dimanche, 19h25 et 19h45, c'est vraiment la plage avec un taux d'écoute maximal, ça suit les nouvelles sportives pour donner une indication. Elle lit de manière assez insolite une évocation de la bataille de 1859 avec un reportage sur les manifestations commémoratives de Solferino de 59. Et pour ce faire, le reporter donne la parole à différents témoins ou intervenants, notamment un témoin dont les parents ont assisté à la bataille de Solferino, des participants des manifestations commémoratives comme l'ancien ambassadeur et vice-président de la société française de la Croix-Rouge André-François Poncet, Bernard Gagnebin, etc. L'émission me semble intéressante par son insistance à souligner la spécificité des manifestations commémoratives placées sous l'égide du CICR par rapport à celles qui s'étaient déroulées quelques jours plus tôt et qui avaient pour cadre la commémoration militaire, avec la présence notamment du général de Gaulle et qui célébrait les relations franco-italiennes et au-delà l'unité européenne. La Croix-Rouge italienne avait beaucoup œuvré pour dissocier les deux commémorations, encore fallait-il que les médias le rendent audible et visible, et c'est ce que contribuera à faire l'émission de Radio Lausanne. C'est la même intention qui va inciter Georges Kuhn à développer un partenariat assez original avec la SSR. En avril 59, Kuhn demande à la télévision suisse d'envoyer quelqu'un filmer les cérémonies Croix-Rouge de Solferino pour le téléjournal. Or, on lui répond que les cérémonies militaires vont être filmées, mais que pour des raisons financières, une équipe de la télévision ne pourra pas rester pour la deuxième partie des commémorations et que l'on se contentera de reprendre les images de la télévision italienne. Le bureau de Kuhn offre alors de participer financièrement au séjour supplémentaire à Solferino de l'équipe de tournage, et de bénéficier en retour des films qui ont été tournés à l'occasion du deuxième volet des commémorations. Et sur la base de ces images, Kuhn va réaliser son propre film de 13 minutes, qui va comprendre trois versions, en français, en anglais et en allemand. Et j'aimerais vous en montrer un extrait.
La question, quelques précieux souvenirs de l'histoire de la Croix-Rouge ont été rassemblés dans le premier musée international de cette institution. Toutes sortes d'objets, souvent émouvants dans leur simplicité, évoquent les origines du mouvement. Castiglione del Vestiviere, cette petite ville lombarde occupe une place à part dans l'histoire de la Croix-Rouge. Car ces églises ont vu l'inoubliable expérience d'Henri Dunant, faisant appel à toutes les bonnes volontés. La dernière manifestation de ces cérémonies du souvenir, ce fut un hommage à tous ceux et à toutes celles qui, entraînés par Dunant, soignèrent les blessés de la bataille. À tous ceux qui allumèrent ici, dans ce creuset de la Croix-Rouge de Castiglione, cette flamme bienfaisante, d'où sortit après des années d'efforts et d'opiniâtres démarches, la première convention de Genève.
Thank you.
générosité. De cette réaction d'un cœur courageux, qui refusa de s'incliner devant un état de fait accepté passivement jusqu'alors, et qui prouva que devant la souffrance, les hommes sont tous prêts.
Voilà, alors bon, le film peut-être, je ne savais pas qu'il y avait des personnalités de... Il faut travailler avec le département audiovisuel du CICR, qui est très riche, et qui a fourni ces images. Donc, au-delà du film lui-même, même si c'est assez intéressant de voir comment Kuhn refait un montage tout à fait différent par rapport, a priori, à des images qui traitaient de la commémoration, enfin, des cérémonies, ce qui m'intéresse ici, c'est la stratégie de Kuhn afin de contourner finalement des moyens qui sont extrêmement modestes et les difficultés qu'il a de convaincre sa hiérarchie de lui en donner un coup de dingue, de lui donner une plus grande marge de manœuvre pour développer son bureau. Alors, Kuhn va développer deux stratégies. D'une part, poursuivre une politique qui avait été entamée quelques mois auparavant visant à encourager les délégués à faire filmer leurs opérations de secours, parce qu'on se rend compte que finalement le matériel filmique autour du CICR est toujours le même, et puis quand il s'agit de faire un film, on est en manque d'images, et d'images portant sur la réalité concrète du travail des délégués sur le terrain. Et puis, Kuhn va, dès la deuxième partie de l'année 59, prendre langue avec les responsables de la télévision suisse afin de leur proposer d'expédier tous les deux ans à l'étranger un caméraman qui aurait pour tâche de recueillir des images filmées d'une activité déterminée du CICR en pays lointain. Cette réalisation se ferait d'une certaine manière de compte à demi avec la télévision qui y trouverait elle aussi son intérêt. Le CICR resterait propriétaire du film original après sa diffusion sur les écrans de la télévision suisse et pourrait par la suite réaliser aisément des versions en diverses langues. C'est ce type de partenariat qui va notamment être utilisé pour couvrir le tremblement de terre d'Agadir en 1960. Les investigations restent à mener pour évaluer le caractère systématique de ce type de partenariat et analyser de manière plus générale les apports, mais aussi les tensions générées par ce type de collaboration. Si je parle de tension, c'est que l'on voit apparaître dès le début des années 60 plusieurs exemples de frottements entre CICR et les studios de radio et télévision. En effet, si les studios sont plutôt heureux de pouvoir compter de manière de plus en plus régulière sur la présence de délégués qui vont s'exprimer au micro ou devant les caméras, ils souhaitent dans le même temps afficher leur autonomie vis-à-vis du comité. Je trouvais intéressant cette citation de Kuhn dans une lettre de janvier 61 qui déplore qu'un film sur le Congo n'ait pas été programmé en Suisse alémanique avant un visionnement préalable d'un responsable. Vous pouvez lire, hein, le fait est cependant là, on n'a pas voulu laisser passer au programme alémanique une production du CICR avant de l'avoir vérifié, ce qui était impensable il y a une année seulement, donc ça nous en dit beaucoup aussi sur ces relations privilégiées qui s'étaient peu à peu construites entre CICR, radio et télévision. Monsieur Dova, ancien responsable de Radio Genève et également interlocuteur privilégié avec le CICR, estime qu'une intervention directe du comité devrait être faite auprès de Monsieur Spuller, de façon à ce que l'arrêt provienne de très haut. Troisième élément, ce sont les fictions. Les fictions, alors, il y en a évidemment un assez grand nombre depuis les années 60, qui sont centrées sur la figure de Dunan, plus que sur Solferino proprement dit. Elles correspondent à une redécouverte plus générale de la figure de Dunan, avec la publication de certains de ses textes, les premières biographies, la constitution de la société Dunan. Elles correspondent aussi au développement donc, de toute une série de transpositions théâtrales, filmiques, de la vie de Dunan, autant de productions qui tendent à s'autonomiser de la tutelle du CICR, même si plusieurs projets cinématographiques des années 60 se font dans le cadre d'une collaboration assez forte entre les réalisateurs soucieux de bénéficier de la caisse de résonance que peut représenter une sorte de label CICR et l'institution genevoise. Alors, bon, vous avez ces différentes productions que je ne vais pas commenter, signalons la diffusion à la TSR en 71 du film célèbre de Christian Jacques, Dom à Rome, avec Jean-Louis Barrault dans le rôle d'Henri Dunan. Et j'aimerais parler et me concentrer sur la réalisation Avenir Résurrection d'Henri Dunant, fruit de la collaboration entre Walter Weidli et Jean-Jacques Lagrange. Bon, cette production, elle a plusieurs caractéristiques. Deux jeunes voix, car Weidli et Genevoix sont à l'origine du projet. Walter Weidli, je ne le présente pas, qui a été le traducteur de Dürrenmatt, rédacteur de la partie littéraire du journal de Genève, auteur de très nombreuses mises en scène, adaptations dramatiques, et puis Jean-Jacques Lagrange, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, et que je remercie également pour toute l'aide qu'il m'a apportée pour cette étude, grande évidemment figure de la télévision suisse romande et réalisateur qui a participé à l'élaboration de ce spectacle vidéo. En effet, ce projet est assez particulier dans son esthétique. Il faut revenir peut-être au début du projet. Weidli, dans un premier temps, a réalisé pour la DRS une émission sur le thème de Dunant qui s'intégrait dans un concept qui s'appelait Télé Arena. Ça n'a rien à voir avec le Arena qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était un mélange entre une partie débat introduite par une représentation théâtrale. Et cette idée un peu a été reprise ensuite dans la réalisation Weidli Lagrange de 1959, dans le cadre, disons, d'un téléfilm, mais qui mêle l'esthétique théâtrale et télévisuelle, d'où le nom de spectacle vidéo. Sur le plan de sa construction, donc le film est concentré sur les années 1866-1868. Bon, on a un premier tableau avec le public est donc intégré pleinement au film. Le public prend arrive et prend place sur les gradins. Ensuite, on a, pendant ce temps, Dunant lit des passages de Solferino. Le deuxième passage a comme unité de lieu l'exposition de 1867, avec notamment le pavillon de la Croix-Rouge, mais également toute une série d'entretiens que Dunant peut entretenir dans ce cadre avec certaines personnalités mondaines, disons, du moment. Le troisième tableau va être le moment de la déchéance et de la ruine. Et puis, ce quatrième tableau qui a marqué un peu les esprits avec l'attribution du prix Nobel et ce buste absolument monumental Dunant. Même si Solferino n'est pas directement thématisé dans le film, plusieurs scènes renvoient explicitement au texte. Comme je l'ai dit, Dunant, dans la première partie de mise en place du public, lit un certain nombre de passages du texte, et lit notamment les passages les plus atroces. Et puis, il y a cette scène que j'aimerais encore rapidement vous montrer, et j'en aurai très vite fini.
La tour de Mantovana.
Oui, c'est ça, je crois. Mesdames, ce qui va suivre, aucune parole humaine ne saurait le décrire. L'assaut devait durer près de 15 heures, dans une chaleur étouffante. Autrichiens et franco-sardes s'entretuent sur des monceaux de cadavres ensanglantés, s'assomment à coups de crosse, se brisent le crâne, s'éventrent avec le sabre ou la baïonnette. Plus de quartier, c'est une boucherie, un combat de bêtes féroces,
ils sont dans la tour dedans. C'est incroyable.
Subitement, c'est la panique, la déroute. Les Autrichiens tournent le casaque, l'Ozouave s'élance, baïonnette au poing. Détournons-nous de cet horrible carnage. Et regardons cette émouvante gravure qui représente l'église de Castiglione. C'est car c'est ici qu'intervient notre fondateur, le philanthrope genevois Jean-Henri Dunant. Venu à Solferino en simple touriste suisse, il débouche sur un champ de douleur. Au lendemain de cette bataille, une des plus sanglantes de l'histoire, 40 000 morts, des milliers d'Autrichiens agonisent sur les dalles de ce sanctuaire. Leurs médecins, craignant pour leur vie, les ont abandonnés. Qui les soignerait?
Mais est-ce vrai qu'on leur coupe la jambe avec une scie, Malise et Gossonline?
Bouleversé, transporté de compassion chrétienne, Dunant court vers les maisons voisines. Il trouve des femmes terrées dans leurs cadres. Tutti fratelli, leur crie-t-il.
Tutti fratelli?
Tous les hommes sont frères. Il les secoue, les arrache à leurs craintes et improvise avec elles jour et nuit, jusqu'à l'épuisement des forces, des secours pour tous ces malheureux, dont fort peu, hélas, survivront, méritant ainsi le qualificatif immortel de Samaritain de Solferino. Voici l'homme. De bien vouloir signer notre livre d'or.
Excusez-moi, monsieur. N'ai-je pas l'honneur de parler au président de la Banque française?
Oui, monsieur.
Permettez-moi de vous dire que ce pavillon est le plus utile de toute exposition universelle. Et que je suis ému, ce buste.
Flatté, monsieur.
Mesdames, savez-vous, mesdames, qu'à Genève, dans sa propre ville natale, ce pavillon est persécuté?
Allons, allons, monsieur Dunant est bien au-dessus de ses ragots.
Mais on le renie comme Jean-Jacques Rousseau.
Mesdames, la visite continue.
Ah, la vérité, et tu m'entends?
Oui, c'est un allez, illuminez, ma chère. Ouh, il est peut-être dangereux.
Nous avons encore beaucoup de choses passionnantes à voir, en particulier un extraordinaire sac brancard.
Monsieur, monsieur, que se passe-t-il à Genève?
Mais rien, madame, rien.
Comment rien?
Mesdames, si vous voulez bien me suivre.
Mesdames, je vous en supplie, écoutez-moi. Je n'invente rien, mesdames, à Genève. Son système. Je complice.
Voilà. Alors, cet extrait, resté ici pour l'instant, donc tout en reprenant la rhétorique du souvenir, montre ici une forme de captation du texte par autrui. C'est finalement plus Dunant qui raconte l'épisode de Solferino, mais c'est un autre qui, d'une certaine manière, parle à sa place. Et c'est l'amorce d'un processus de dissociation, voire de dépossession de Dunant avec de la Croix-Rouge qui sera montrée dans le film. Vailly et Lagrange montrent plus globalement un Dunant certes visionnaire, au-delà, disons, de l'aspect humanitaire, mais aussi manipulateur et parfois égaré. On retrouve toutefois d'une certaine manière l'idée qui avait été développée déjà par Brecht en 1942, dans un projet de film qui n'a jamais vu le jour, un film consacré à Dunant. C'était un projet qu'il devait présenter, il était aux États-Unis, à des producteurs américains, où il présentait, dans une vision véritablement brechtienne, comment Dunant est victime d'une société capitaliste où l'humanisme, l'humanitarisme n'a pas sa place. Alors, c'est intéressant parce que j'ai travaillé sur les papiers Weigli et le scénario de Brecht est dans ses papiers, on voit qu'il l'a étudié. Dans le même temps, Weigli va plus loin en tentant de comprendre les raisons de la chute, dont il juge d'ailleurs Dunant aussi responsable, mais aussi de sa résurrection. Comme je l'ai dit, cette vision de Dunant et Solferino s'inscrit dans une relecture du personnage, moins manichéenne que celle qui avait longtemps prévalu. Le souvenir n'est plus lu en tant que pierre angulaire et prophétique de la geste séissérienne, mais comme un texte qui a engendré une postérité tumultueuse, lieu de mémoire contradictoire et d'instrumentalisation multiple. J'en viens à la conclusion. Ce que j'ai très très rapidement voulu esquisser par ces quelques éléments, C'est d'abord souligner ces rapports précoces entre le CICR et les médias, et notamment avec la radio et la télévision suisse-romande. On dit souvent que la politique médiatique du CICR ne s'est développée que dans les années 70. Je pense que c'est à relativiser. Certes, les moyens sont très faibles. Une partie de la hiérarchie est sans doute peu convaincue de l'apport de l'audiovisuel. Mais aussi bien les tentatives d'un Hoffmann que celles de Georges Kuhn témoignent d'une prise de conscience de l'importance d'une stratégie d'une communication englobant l'audiovisuel. On voit l'hétérogénéité des déclinaisons médiatiques de Solferino. J'aurais pu parler encore d'autres formats, notamment une émission littéraire en 1971 où le président Boissier parle du souvenir de Solferino. Les émissions militaires de Daniel Costel sur Solferino. L'évocation de Solferino se fait donc selon des modalités différenciées qui impliquent des mises en récit très différentes, qui travaillent à l'actualisation mais aussi à l'universalisation de son message. Si l'on pense aux radios scolaires mais aussi aux émissions du 8 mai, les déclinaisons médiatiques de Solferino permettent d'en élargir la diffusion tant sur un plan sociologique que géographique. Comme on l'a dit dans l'introduction, l'analyse des déclinaisons audiovisuelles de Solferino ne sont pas propres à nous apporter de nouveaux éléments sur l'événement lui-même ou sur le souvenir. C'est en revanche un terrain d'observation tout à fait privilégié pour analyser ce que Pierre-Yves Saunier, dans un petit article du XXe siècle, a parlé d'exemplarité humanitaire. Pour s'en convaincre, et je conclurai là-dessus, on peut prendre l'exemple très récent du film de Dominique Ohlin-Girard, je crois que ça soulève quelques exclamations, du rouge sur la croix. Le Dunant ambivalent de Weigli et Lagrange fait place à une sorte de héros, téméraire, voire libertaire, qui organise notamment une évacuation de blessés sur le champ de bataille de Solferino et pose les bases du droit humanitaire international tel qu'il va se développer avec quand même pas mal d'aléas dans les années postérieures. Pourtant, ce n'est pas tellement la question de la vraisemblance du film qui m'intéresse et finalement qui doit intéresser l'historien. Comme pour les autres productions présentées très rapidement ici, ce film, et finalement comme les émissions que je vous ai présentées, constitue un éclairant révélateur de l'actualisation du message du Dunant et des relectures constantes du CICR, car je vous rappelle que ce film a eu l'appui du CICR, et que dans les bonus de la version commerciale, vous pouvez trouver une présentation des activités du CICR, donc propre à analyser également les relectures constantes du CICR de son propre passé. Je vous remercie beaucoup en m'excusant d'avoir été un tout petit peu long.
Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé et pour ce travail de recherche sous-jacent, les images que vous avez permis de redécouvrir. Est-ce qu'il y a des questions ou découvrir? Parce que pour beaucoup, elles étaient accueillies. Oui, Elisabeth.
En 2010, il y a eu des émissions de la radio, il y en a eu 5, je crois 5 ou 6. Et ces émissions, on a été contacté par la radio Lausanne sur, sur le développement de la commémoration. Et donc c'était une commémoration du centenaire des morts d'Henri Dunant et Gustave Moynier qui sont morts en 2010, à 3 mois de distance. Donc, logiquement, on a mis sur pied toute une commémoration. On a mis 4-5 ans pour la préparer. Et elle a eu lieu, donc, pendant toute l'année 2010. Donc, le journal la radio nous a contactés pour faire des émissions sous le titre de « Histoire vivante ».
Ouais. Donnez-moi une heure de plus.
Françoise.
Oui, merci pour ces évocations. J'aurais une question qui peut-être s'adresse aussi à M. Lagrange, puisque nous l'avons avec nous. Comment ça passait au moment où ce sort de grand spectacle s'est monté? Comment le fait de traiter Solferino a pu passer? Est-ce que c'était quelque chose d'accepté facilement? Est-ce qu'il a fallu se battre? Est-ce que c'était considéré comme vendeur, si j'ose dire, pour la télévision?
Alors, Jean-Jacques.
Non, je veux dire que c'était très facile de pouvoir monter ce spectacle. C'est d'ailleurs une des dernières grandes productions qui ont été faites à l'intérieur du studio. Après, le style a changé, on a fait des téléfilms tournés extérieurs, c'est ce qu'on appelait le style dramatique. Et il n'y a eu aucun problème, tant au niveau de la préparation, du temps qui a été accordé à Valérie pour faire ses recherches, parce que c'était très différent du spectacle qu'il avait monté à Tour Arena à Zurich. Et puis, après, les moyens qui ont quand même été assez considérables pour faire cette émission, parce qu'il y avait cet immense décor dans lequel se déroulait une partie de l'émission, et après il a fallu tout démonter pendant une nuit, tout le décor, pour construire l'autre décor et amener le public dans les scènes qui étaient au début et à la fin. Donc, ça n'a été aucun problème, tant sur le plan de la finance, parce que c'était quand même assez considérable, le nombre de comédiens, les costumes, que sur le plan, disons, politique, de programme. Voilà.
Merci. Oui, pour compléter, en fait, je m'attendais à ce que les réactions dans le public soient peut-être plus contrastées, mais bon, Jean-Jacques a gardé le dossier de presse de manière assez complète. Et finalement, il y a très peu de réactions négatives, en tout cas par rapport à l'image aussi de Dunant qui est donnée. Qui est, encore une fois, une image qui, à l'époque, était peut-être assez contrastée, le présentant ouais, sous des aspects encore moins caricaturaux que ceux sous lesquels on l'a peint, mais bon, avec aussi sans complaisance, disons. Et je m'attendais à des réactions plus vives sur la place genevoise. Et en fait, il semble que l'émission a assez bien passé.
Alors, Monsieur Barton, vous avez fait une allusion à mon grand prédécesseur, Max Huber. D'une façon un peu simpliste, vous avez dit, comme s'il ne parlait jamais. Alors, mon calepin mentionné par Roger tout à l'heure m'aide à vous dire l'explication que Max Huber a dit. Mais moi, je l'ai en italien, alors je tâche de le traduire en français. Nous devons faire des discours au peuple du monde. Nous ne devons pas faire des discours au peuple du monde. Ce qui importe, ce n'est pas tellement ce que dit la Croix-Rouge, mais ce qu'elle est et ce qu'elle fait avec engagement, désintérêt et persévérance. Ça, c'est la phrase de Max Huber. Voilà une petite réponse pour défendre mon grand prédécesseur.
Merci.
Oui, Isabelle.
Merci d'abord de vous exposer. J'ai juste une petite question. Vous parlez de radiodiffusion en 42. Donc, forcément, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus? Parce que vous avez, si j'ai bien compris, vous avez, dans votre exposé au début, vous avez expliqué qu'en 42, il y avait des émissions radio qui se faisaient.
Oui.
Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer un peu pourquoi? Enfin, moi, j'ai une difficulté là-dessus.
Vous
avez expliqué la chose, pourquoi c'est en
42
qu'on commence à avoir des émissions sur
le CSR? Alors, non, je pense que vous êtes sans doute beaucoup mieux renseigné que moi. Bon, il y a donc un certain nombre d'émissions qui apparaissent auparavant, Mais 1942, c'est cette émission qui s'appelle le Courrier international de la Croix-Rouge, qui va véritablement être une tribune offerte au comité pour présenter ses activités de manière extrêmement régulière, avec surtout cette possibilité, comme je l'ai dit, de pouvoir être relayée également par l'émetteur de Schwarzenburg, et donc par le service des ondes courtes, et de toucher un public international. Alors évidemment que 1942, bon, dans le contexte de la guerre, je pense, joue un rôle essentiel et crucial sans doute dans la mise en place de cette politique radiophonique qui là devient vraiment beaucoup plus systématique et très bien articulée.
Merci, je propose qu'on s'arrête.
Une toute petite intervention. Tout d'abord pour vous remercier chaleureusement M. Valeton qui ouvre véritablement un autre secteur de communication et de recherche sur l'histoire et le rayonnement de la Croix-Rouge. Et pour nous, c'est une première fantastique. Je remercie à ce propos Antoine Fleury qui vous a mis sur la piste de M. Valeton. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et puis, alors, une toute petite information parfaitement actuelle. Demain, dimanche, à 20h10, si vous n'êtes pas complètement saturé, etc., etc., sachez qu'il y a eu une émission sur la télévision suisse romande, je crois, Bon à savoir, et c'est le... Oui, demain à 20h10, dimanche, et c'est une émission sur le... C'est mise au point. C'est mise au point, 20h10 sur la télévision suisse romande, la première chaîne, et c'est sur le futur siège de la Société Henri Dunant et de Genève Humanitaire. Alors naturellement, nous parlerons aussi de ce bien de Saint Ferry.
On va bientôt le placer.
Je remercie, une minute s'il vous plaît, je remercie beaucoup nos trois orateurs de cette première partie de la matinée. Je vous prie d'être de retour, il y a maintenant la pause café, je vous prie d'être de retour ici exactement dans 20 minutes, par respect pour les orateurs suivants, qu'ils aient suffisamment de temps à disposition pour leurs exposés. À tout à l'heure.